semaine d'actualité. Pierre-Édouard Deldic.
Bonjour, samedi 16 avril, on se retrouve pour vivre 7 jours d'événements avec la rédaction. Rendez-vous avec l'actualité africaine, bien sûr, après le flash et avec vos messages aussi. Nous reviendrons tout à l'heure sur l'élection présidentielle au Tchad. Mais tout de suite, écoutons ces quelques électeurs tchadiens interrogés dimanche par notre correspondant Majasra Nako.
Nous attendons surtout l'égalité sociale. Et depuis que j'ai fini avec mon diplôme en 2014, je n'ai pas accès à un boulot. Donc je pense qu'avec le nouveau président, on pourrait avoir des travaux. Donc on attend d'abord l'égalité sociale et le travail en fait.
Parce que la jeunesse est abandonnée à elle-même. Dans tous les domaines, dans le domaine des sports éducatifs, dans tous les domaines, la jeunesse n'est zéro. Et dans la vie sociale, vraiment, tout est cher dans la vie. On ne peut même pas manger, on ne peut même pas bien dormir comme on le veut. Donc je demande seulement au nouveau président d'essayer de voir ces cas-là d'abord, avant de voir autre chose plus que...
Moi, personnellement, ce que je demanderais au futur président qui serait élu, vraiment de faire la volonté d'abord de Dieu et de respecter son peuple. Tout ce que le peuple a besoin, il doit obéir. Il doit être vraiment à l'écoute de sa population, aussi respecter aussi la dignité du peuple. C'est ce que j'aimerais que le futur président fasse.
C'est un membre du club des invités d'une semaine qui est avec nous ce matin. Il est journaliste et travaille à Monde Afrique, le site d'information. Bonjour Sidi Kaba.
Bonjour Pierre-Edouard, bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Et ravi de vous retrouver à ce micro. C'est toujours un plaisir pour nous de vous accueillir pour ce commentaire d'une semaine d'actualité. Vous, l'homme très écouté dans tous les sens du terme.
Ah oui, il n'y a pas que le député Thierry Soler dont on vient d'avoir connaissance des écoutes. Moi-même, je suis très écouté, comme vous dites. Pour je ne sais quelle raison, que des auditeurs m'écoutent, c'est bien, mais que des
Alors
services...
Ça, c'est même recommandé.
Absolument.
Hein. Mais
c'est toujours
un plaisir.
Mais
qui sont moins recommandés. Hein.
Mais bien que des services de renseignement m'écoutent, je pense que je ne sais pas ce qui me vaut ce privilège, mais je suis convaincu que ça fait au moins 3 ans, depuis 2013, date de la sortie de mon livre sur la junte militaire et les affaires secrètes, je suis constamment écouté et même mes communications électroniques sont surveillées.
Il sera peut-être plus simple de vous écouter à la radio.
Ah oui, mais c'est ça le paradoxe de cette affaire. Moi, je suis un homme de médias, je parle à la radio, je parle à la télé, je m'exprime publiquement. Je ne vois pas, sinon à faire du gaspillage des moyens humains et techniques à m'écouter. Je pense que ceux qui m'écoutent ont d'autres urgences dans le contexte d'aujourd'hui où la sécurité est menacée par le terrorisme que d'écouter un journaliste en activité dont les activités sont ouvertes, n'ont rien de clandestin.
Et public, effectivement, c'est le moins qu'on puisse dire. Qu'est-ce qui vous a marqué en deux mots cette semaine, Sidi?
Je pense que l'anniversaire des filles de Chibok, non pas parce que tout le monde en a parlé, mais parce qu'il y a une dimension à la fois d'actualité et une dimension humaine. Aujourd'hui, on a vu beaucoup de parents de ces jeunes filles qui ont perdu toute trace de leurs filles. Certains, ce même des filles uniques qui ont disparu pour des familles. Je mesure moi-même, en tant qu'être humain, toute la tragédie qu'une personne peut vivre lorsque son fils unique a disparu comme ça, sans qu'elle ait la preuve que cet enfant est décédé. Donc, c'est vraiment, ça a été très bouleversant pour moi, cet épisode, cet anniversaire de la disparition des jeunes filles de Chibok.
Et bien sûr, on va en reparler tout à l'heure.
Sept jours dans le monde.
Sidi, arrêtons-nous tout de suite sur une image symbolique dans l'actualité de ces derniers jours. Pour commencer cette émission, c'était lundi. John Kerry, le secrétaire d'État, est allé s'incliner devant le monument dédié aux victimes du bombardement atomique à Hiroshima. Correspondance de Frédéric Charles.
John Kerry a d'abord visité le musée de la paix d'Hiroshima. Il retrace toute l'horreur de la première bombe atomique lancée contre une population civile. Toute l'horreur. Le calvaire des atomisés, leur corps écorché vif. 70 ans plus tard, dans les hôpitaux de la ville, des survivants meurent encore de cancer dû aux radiations. Le musée rappelle aussi ce qui a précédé Hiroshima, le militarisme japonais et ses atrocités. À Hiroshima, John Kerry ne présente aucune excuse. Pour l'Amérique, le bombardement atomique était nécessaire pour contraindre le Japon à capituler. Aujourd'hui, la plupart des petits Japonais sont incapables de mentionner le jour du bombardement. Par sa seule présence, John Kerry contribue à ce que la mémoire d'Hiroshima ne s'effrite pas totalement. Barack Obama, prix Nobel de la paix, pourrait, dit-on, visiter à son tour Hiroshima lors du prochain sommet du G7. Aucun président américain en exercice ne s'est encore rendu à Hiroshima. Le souvenir d'Hiroshima s'est déjà estompé de la mémoire du Premier ministre japonais Shinzo Abe. Il veut réviser la constitution pacifique, maintenir une capacité nucléaire, pour le cas échéant, doter le Japon de l'arme atomique.
Et puisque nous parlons du Japon, j'ajoute qu'il y a eu un tremblement de terre jeudi dans le sud du pays. Ce tremblement de terre a fait 9 morts et des centaines de blessés et de gros dégâts dans la région. Donc, je crois que vous connaissez Hiroshima, Cédric.
Oui, ça m'arrive rarement de parler de moi-même, mais je suis allé à Hiroshima à la faveur de ce que peut offrir notre métier, celui de journaliste,
d'un
voyage.
C'est partie des plaisirs du journalisme.
Absolument, un des rares plaisirs, entre guillemets.
Ah, il y en a quelques-uns quand même.
En tout cas, j'ai profité d'un voyage à Kyoto où on devait examiner le protocole pour aller à Hiroshima et j'en suis sorti totalement bouleversé parce que sur le site, il y a des maisons qui ont été conservées pour servir de musée et dans le musée même, on peut rencontrer des objets tout à fait personnels comme le vélo d'un petit enfant qui a été emporté, lui, par la bombe, mais son vélo est resté et le petit vélo là a été conservé. On en sort totalement bouleversé de la visite de ce musée-là.
Avec peut-être une visite donc du président Obama au mois de mai avant la fin de son mandat. En tout cas, c'est dit qu'il faut noter aussi dans l'actualité de la semaine le vote par le Parlement européen de la loi sur le partage des registres des données de passagers. Tout ça s'inscrit évidemment dans la lutte contre le terrorisme. C'est un projet qui est en discussion depuis des années. Je ne sais pas si vous voulez en dire un mot, mais en tout cas, c'est au nom du terrorisme que ces échanges de données de passagers à l'intérieur de l'Europe pourront être faits.
Tout à fait. Il y a eu beaucoup de tergiversations, comme vous le rappelez si bien. Et ce projet a fait l'objet de va-et-vient, a fait l'objet de contestations. Mmh. Et aujourd'hui, on profite de l'émotion post-attentat de Bruxelles, post-attentat de Paris, pour faire avancer très vite ce projet. Beaucoup de gens sont un peu sceptiques sur l'efficacité de la mesure elle-même, même si les États, eux, s'en prévalent. Et puis, il y a l'autre dimension que des événements récents ont appelé, c'est éviter que cette mesure soit détournée de son sens pour que les données personnelles des passagers soient récupérées. Puisque j'ai cru voir parmi les données, il faut transmettre le numéro de son compte bancaire, il faut même transmettre ses préférences alimentaires. Donc, il y a besoin que ça soit efficacement encadré, que ça serve vraiment pour la lutte contre le terrorisme à laquelle tout le monde est adhérent, à laquelle tout le monde adhère. Personne n'a de réserve par rapport à la lutte contre le terrorisme. Il faut concilier cette exigence de la lutte contre le terrorisme aussi avec la préservation des libertés et aussi les risques d'abus, puisqu'il ne faut pas se méprendre. Les gens qui vont avoir entre leurs mains ces données-là ne sont pas absolument des philanthropes. Lorsqu'ils voudront ou lorsqu'ils ne sont pas absolument des saints, il peut y avoir des dérapages. C'est pour cette raison qu'il faut encadrer tout cela.
RFI. Partons maintenant au Pérou, Cédric Abba, après le premier tour de l'élection présidentielle. Avec sa victoire au premier tour, donc dimanche, Keiko Fujimori tentera début juin de transformer l'essai, comme on dit, au second tour de la présidentielle dans ce pays, mais devra convaincre un pays encore divisé sur l'héritage de son père, l'ex-président Alberto Fujimori. Lima, Eric Sanson.
L'élection de dimanche a été pour le Pérou l'occasion de battre un record démocratique. Pour la première fois dans l'histoire du pays, 4 présidents vont se succéder légalement, sans coup d'État. Sans même parler de Valentín Paniagua, qui avait assuré la transition présidentielle après la fuite d'Alberto Fujimori au Japon en 2001. Alejandro Toledo, Alan Garcia et l'actuel chef de l'État, Ollanta Humala, se sont succédés sans contre-coup. Alors que sa fille Keiko a promis de respecter l'ordre constitutionnel, Alberto Fujimori est le dernier à avoir organisé un coup d'État en avril 1992. À l'époque, le Congrès s'apprêtait à enquêter sur le détournement d'aide humanitaire par certains membres de la famille Fujimori. Entre un père condamné à 25 ans de prison pour corruption et violation des droits de l'homme, des oncles et tantes en fuite pour avoir vendu des donations de vêtements à l'origine destinées aux plus pauvres, des doutes persistants quant à l'origine des fonds ayant financé ses études universitaires et un beau-père accusé de fraude fiscale, Keiko Fujimori a du travail devant elle pour convaincre de sa bonne foi dans la lutte anticorruption.
L'actualité sur le continent latino-américain, c'est aussi bien sûr le sort de la présidente du Brésil, Dilma Rousseff. On vous en parle dans nos journaux. Partons pour le Yémen maintenant, où malgré un cessez-le-feu, les combats continuent. Au moins 13 combattants pro-gouvernementaux ont été tués dans une attaque rebelle près de la capitale du Yémen, Sanaa, en dépit d'un cessez-le-feu décrété par l'ONU cette semaine. Et la situation humanitaire est pour le moins critique. Correspondance régionale d'Angélique Ferrat.
Après une année de combats et de destruction, 82% des Yéménites dépendent de l'aide humanitaire. Certaines régions souffrent de famine. 2,7 millions de personnes ont été déplacées. Et pendant tout ce temps, les ONG n'ont pas pu atteindre certaines zones. Sima Jamil, la directrice Yémen pour le Conseil norvégien aux réfugiés, souligne que le cessez-le-feu actuel doit être durable.
Nous avons besoin d'un cessez-le-feu durable pour pouvoir distribuer l'aide humanitaire. 52% des Yéménites n'ont plus de travail. Les Yéménites ne peuvent plus se faire soigner régulièrement. Beaucoup de familles ont dû fuir plusieurs fois et ont tout perdu. Les ONG, le Programme alimentaire mondial, arrivent à faire entrer de l'aide. Mais le problème que l'on rencontre, c'est que beaucoup de conteneurs restent bloqués dans les ports et sont perdus. Donc, ce dont on a besoin, c'est que l'aide humanitaire puisse entrer sans problème dans le pays et puisse être distribuée.
Get across the country.
Un appel à financement a été lancé. Les Nations Unies ont demandé 1,8 milliard de dollars. Seuls 13% de cette somme ont été collectés pour l'instant. L'Arabie Saoudite a lancé une campagne de bombardement avec d'autres pays arabes il y a un an pour sauver le gouvernement officiel, obligé de fuir lorsque les rebelles Houthis ont pris la capitale Sanaa.
Notre voyage dans la région continue. Les combats ont en effet continué aussi en Syrie ces derniers jours, notamment dans la région d'Alep. À Beyrouth, Paul Khalifé a fait un point jeudi.
Les combats n'ont pas cessé depuis 5 jours et se concentrent au sud de la ville d'Alep, autour d'El-Aïs, une petite localité stratégique qui surplombe l'autoroute Damas-Alep. El-Aïs avait été reprise par l'armée syrienne en janvier. La semaine dernière, le front al-Nusra l'a reconquise à la faveur d'une offensive éclair. Depuis, les troupes gouvernementales et leurs alliés tentent en vain de la reprendre. Les combats sont très durs et tout type d'armement sont utilisés, y compris les avions. L'Observatoire syrien des droits de l'homme avance le bilan de 100 morts en 4 jours. La chaîne de télévision Al-Mayadine, proche de la Syrie et de l'Iran, parle de 100 djihadistes et rebelles tués ces dernières 24 heures. L'OSDH a rapporté qu'al-Nusra a pu récupérer les corps de 20 soldats syriens et miliciens pro-régime, dont 4 combattants du Hezbollah. Une information confirmée à RFI par le parti chiite libanais. Al-Nusra a aussi attaqué au nord d'Alep et a attaqué à l'ouest. Mais sur ces deux fronts, les troupes gouvernementales ont pu contenir les assauts et reprendre rapidement les positions perdues. Des combats ont également éclaté dans la ville de Daraa, au sud et près de Damas, où le groupe État islamique a pris le contrôle de la quasi-totalité du camp palestinien de Yarmouk.
Et plus de 200 combattants des différentes forces armées ont été tués depuis dimanche dans ces combats dans la région d'Alep, toujours selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Une semaine d'actualité en compagnie de Sedi Kaba. Nous parlerons tout à l'heure évidemment de l'actualité africaine, mais j'aime aussi vous entendre sur l'autre actualité internationale. Le Pérou, il est rare que nous parlions dans cette émission, et c'est sans doute une erreur du Pérou.
Non, c'est tout à fait intéressant. Moi, je
une sorte de dynastie qui apparaît. Hein.
Je rends hommage à votre choix de parler du Pérou, parce qu'il y a des pays dont on ne parle pas c'est souvent, vrai. Et le Pérou est dans ce cas. Donc, c'est très heureux que vous me donniez cette occasion de parler du Pérou, où on le voit de façon démocratique, l'héritière de Fujimori, qui est lui-même en prison, est en train de revenir parce que les Péruviens ont choisi de lui faire confiance. Et toute la difficulté de la fille de Fujimori, c'est de pouvoir de se démarquer de l'héritage paternel, puisque le père est poursuivi pour corruption, pour atteinte aux droits de l'homme et emprisonné pour 25 ans. Et la fille d'incarner le changement est là, tel que ce parti, à mon avis, elle pourrait être élue, puisqu'elle distance très largement son challenger qui est l'autre élément d'analyse aussi, c'est la différence d'âge entre les deux candidats. Elle a 40 ans, son challenger a 17 ans, donc il y a a, je pense, chez les Péruviens, un souci de renouvellement de la classe politique. Et c'est tout à fait heureux que les choses se soient passées de façon très démocratique. Ça va nous amener à faire la comparaison avec le continent africain.
Dans
certains pays, c'est vraiment plus difficile.
Alors, il y a un autre pays dont on parle peu, sauf sur RFI, c'est le Yémen, où là, les combats continuent, malgré une trêve pour le moins fragile.
Absolument. Et je pense que c'est tout à fait juste et judicieux de continuer à parler de cette guerre oubliée au Yémen, où aujourd'hui, c'est quasiment 80% de la population qui a besoin d'une aide humanitaire qui ne lui arrive pas. Et la situation ne fait que se dégrader. Je pense qu'en parlant de peut-être que ça pourrait aider à la prise des consciences, parce que les vies des Yéménites sont aussi importantes que celles d'autres personnes. Donc c'est pour cette raison, à mon avis, qu'il faudra continuer la mobilisation pour apporter de l'assistance humanitaire à ces populations, mais travailler aussi sur le volet politique. Un an de bombardement n'a pas servi à régler le problème. Donc, il faut peut-être envisager aussi un volet politique. Comment en sortir politiquement? Parce que si la solution militaire ne donne pas de résultats, il faut envisager la solution politique. Et de ce point de vue, l'Arabie Saoudite a une lourde responsabilité.
C'est ce que j'allais dire. L'Arabie Saoudite est en premier lieu concernée, évidemment, par ce conflit. Et il y a la Syrie. Et là, évidemment, c'est la triste litanie des victimes de semaine en semaine. Et là, c'est les combats pour la reprise d'Alep, où il se confirme que le gouvernement syrien, le régime de Bachar el-Assad, progresse, en fait.
Tout à fait.
Du terrain perdu.
C'est tout à fait exact. Et le paradoxe dans cette situation, c'est que, a priori, il y a une trêve qui est en vigueur depuis février en Syrie, qui aurait dû permettre de conforter les camps de la négociation à Genève. Mais on constate que sur le terrain, le combat se poursuit et redouble d'intensité, comme si chaque camp voulait avoir le rapport de force en sa faveur et pouvoir influencer le déroulement des négociations. Là, autour d'Alep, on sent que les combats sont rudes, avec des centaines de morts par jour. Et depuis 5 jours, on peut considérer qu'il y a eu plusieurs centaines de personnes qui sont décédées. Là aussi, à mon avis, parce que ça fait quand même quasiment plus de 5 ans que la guerre en Syrie dure, on a franchi sans doute le cap de 200 000 morts. Donc, il faudra envisager, il faudra aussi articuler la situation sur le terrain avec la recherche d'une solution politique, d'une sortie de crise. Même si l'Occident et la Russie ont semblé avoir une divergence fondamentale sur le sort de Assad. Il faudra, pour soulager les populations, à mon avis, d'autant que ce qui se passe en Syrie a des implications en Europe. Tout cet afflux de migrants,
évidemment.
On cherche des solutions pour les migrants qui viennent. Si les solutions ne seront durables que si on prend le mal à la racine. Et la racine du mal, c'est la crise. C'est la guerre en Syrie qui fait fuir les gens. Donc, il faut trouver une solution à la crise en Syrie pour espérer actionner cela comme un levier pour la résolution de la crise des migrants en Europe.
C'est dit qu'avant de parler de l'actualité africaine après le flash, disons déjà un mot d'un personnage dont vous avez écrit l'itinéraire, Boubacar Ba. C'est votre dernier livre, Entretien avec Boubacar Ba, un Nigérien au destin exceptionnel. Alors, rappelons en deux mots, on ne le fait jamais assez, vous en aviez parlé à ce micro, en deux mots, qui était ce personnage?
Non, Boubacar Ba, c'est un homme exceptionnel.
Soyons positifs, parlons de quelqu'un de bien.
Oui, Boubacar Ba est un homme tout à fait exceptionnel, à la fois par son parcours et aussi parce qu'il s'inscrit dans la dynamique de l'intégration régionale. Il m'a toujours dit que
lui, mathématicien,
il se considère un mathématicien, un agrégé de mathématiques, qui a enseigné pendant 28 ans les mathématiques, qui a obtenu d'excellents résultats à l'agrégation de mathématiques, mais surtout qui voyait l'Afrique sous forme globale, d'intégration régionale. Lui réfléchissait en Afrique occidentale française, en AOF, qui fédère toute l'Afrique de l'Ouest, plutôt qu'en Nigérien, Malien, Burkinabé. Et moi, je pense que c'est ça la solution pour l'Afrique. C'est la mutualisation, comme on a vu dans le cadre, par exemple, des attaques terroristes qui font Bamako, Ouagadougou, Grand Bassam. Si on ne mutualise pas, si on ne se met pas ensemble, et Boubacar Ba, il y a 40 ans déjà, avait envisagé les solutions aux problèmes africains.
La mutualisation intellectuelle.
Absolument, absolument.
Sadiq, on va marquer une pause pour écouter quelques nouvelles de ce bas monde, des nouvelles de ces dernières heures, bien sûr, et on se retrouve dans 3 minutes. À tout de suite. rédaction. On se retrouve pour en vivre 7 jours d'actualité avec les reportages de la rédaction et notre invité, Sedi Kaba, du site d'information Monde Afrique.
Une semaine d'actualité, Pierre-Edouard Deldic.
L'actualité africaine, c'est dans un instant, mais d'abord arrêtons-nous sur l'actualité française en quelques minutes. C'est dit qu'avec une émission de communication du président François Hollande jeudi soir sur la chaîne publique France 2 et une certaine autosatisfaction, Florent Guignard.
Il n'a pas abandonné la méthode Coué qu'il pratique assidûment depuis 4 ans. Ça va mieux, selon François Hollande, mais les Français le croiront-ils alors qu'il y a 700 000 chômeurs en plus depuis son élection? Il n'a pas non plus échappé à son travers techno-spécialiste en CDD temps partiel, en mode défense de son bilan limite sur la défensive, catalogue parlant de tout ce qui a été fait depuis 4 ans. Il a beaucoup énuméré sans vraiment parvenir à donner le sens qui manque à un quinquennat plein d'ambiguïté. Moderniser le pays tout en préservant le modèle social, c'est la ligne et l'image qu'il aimerait imprimer, réformateur de gauche à la recherche d'un électorat enfui, contesté dans son camp. François Hollande a voulu aussi marquer son autorité en recadrant son Premier ministre. Il n'y aura pas de loi sur le voile à l'université. Et en remettant à sa place l'ambitieux Emmanuel Macron, une fessée en place publique, il sait ce qu'il me doit. François Hollande dira à la fin de l'année s'il se représente. Et en attendant, il l'a répété 4 ou 5 fois, il sera là jusqu'au bout. De toute évidence, il fallait que ce soit dit et redit.
Restons en France, Sedi Kaba, mais commençons à parler de l'Afrique avec la perquisition de la justice dans les locaux de Vincent Bolloré à Paris. Avant d'en connaître les raisons, un rappel d'abord de l'importance du groupe Bolloré en Afrique, Gaël Lalex.
Bolloré Africa Logistics gère aujourd'hui seul ou en partenariat avec d'autres sociétés 14 ports en Afrique plus 23 ports secs. Dans certaines régions, le groupe jouit d'un quasi-monopole comme dans le golfe de Guinée. Parfois, Bolloré Africa Logistics contrôle également les réseaux ferroviaires et routiers. Dernier chantier pharaonique du français, la réhabilitation du chemin de fer entre Abidjan et Ouagadougou lancé en septembre dernier. Près de 1300 km de rails pour un chantier à 2,5 millions d'euros. Bolloré est présent en Afrique dans les activités logistiques depuis les années 80. Mais c'est dans les années 90, quand la Banque mondiale et le FMI incitent les pays africains à privatiser les concessions portuaires, qu'ils se taillent la part du lion. Le groupe déploie une véritable stratégie africaine et se positionne quasi systématiquement sur tous les appels d'offres du continent. C'est là la clé du succès, selon Vincent Bolloré. D'autres y voient plutôt son talent pour rester proche des dirigeants comme Nicolas Sarkozy ou encore Alpha Condé, son ami de 30 ans, comme l'a rappelé le président guinéen.
Alors pourquoi la justice s'intéresse-t-elle au groupe Bolloré aujourd'hui? Pourquoi la tour Bolloré, siège notamment du groupe Bolloré Africa Logistics, a fait l'objet d'une perquisition dans une enquête sur les conditions d'octroi des concessions des ports de Conakry et de Lomé? Réponse de Raphaël Rennes, mercredi.
L'information judiciaire est ouverte depuis 2 ans dans ce dossier. Et si elle était restée jusqu'ici plutôt discrète, c'est que l'affaire ne vise pas directement le groupe de Vincent Bolloré. Au départ, il s'agit d'une enquête sur la société PEFACO, un groupe spécialisé dans l'hôtellerie et très implanté en Afrique. Le président de PEFACO, Francis Pérez, est un homme de réseau. Et parmi ses relations, il y a un certain Jean-Philippe Doran, cadre dirigeant de la société de communication Havas, qui, elle, est détenue à 60% par Vincent Bolloré. Or, Havas s'est occupé en 2010 des campagnes présidentielles d'Alpha Condé et de Forna Simbé. La même année, le groupe Bolloré remportait la concession du terminal à conteneurs du port de Lomé. Et en 2011, Alpha Condé résiliait le contrat de concession du port de Conakry, pourtant attribué pour 25 ans, et le confiait à Vincent Bolloré. Des décisions qui, à chaque fois, ont été contestées par les concurrents de l'industriel français. Dans un communiqué remis à l'agence France-Presse, le groupe Bolloré assure avoir cessé toute communication politique depuis 2011 et son avocat affirme que faire le lien entre les campagnes présidentielles et l'attribution de ces marchés de concession n'est pas crédible et relève du fantasme.
À noter aussi dans cette partie de l'émission entre l'Afrique et Paris, la mort de 3 militaires français ces derniers jours au Mali. Une semaine d'actualité en compagnie de Sedi Kaba, rédacteur en chef au site Monde Afrique et auteur d'un certain nombre de livres dont on en parlait il y a quelques minutes. Des entretiens avec Boubacar Roba, un Nigérien au destin exceptionnel. Mais il y avait aussi le précédent qui vous a valu donc quelques ennuis. Niger, la junte militaire et ses 10 affaires secrètes 2010-2011 et livre publié chez L'armatant. D'abord, l'intervention télévisée de François Hollande s'est dit qu'un commentaire... Alors, il faut préciser que les chiffres d'Audimat, d'audience, ne sont pas très bons, puisque l'émission n'a été regardée que par 3,5 millions de téléspectateurs, semble-t-il, soit à peu près deux fois moins que la moyenne pour ce type d'intervention derrière TF1, qui proposait une série policière, comme si le président Hollande était devenu maintenant inaudible.
Oui, non, c'est clair que il doit avoir une énorme déception pour cette émission, puisque
Une émission qui est sujet à polémique. Hein. Oui. Le Canard Enchaîné a expliqué cette semaine dans quelles conditions cette émission s'est faite.
Absolument. Et dans quelles conditions une des personnes qui devait intervenir a été évincée parce qu'on craignait qu'elle pose une question embarrassante au président. Il y a ce couac au niveau de la préparation, mais il y a aussi la déception parce que l'enjeu de l'émission pour le président Hollande était de reprendre la main. En difficulté dans les sondages, contesté par son propre camp, avec le flop sur la déchéance de la nationalité, il avait besoin de reprendre la main et manifestement, le résultat n'a pas été atteint à la fois en termes d'audience, mais aussi en termes de contenu, puisque sur des questions importantes, le président Hollande n'a visiblement pas convaincu l'opinion française.
Alors, la perquisition dans les locaux de Vincent Bolloré, du groupe Bolloré, vous inspire un commentaire ?
Oui, je crois que cette affaire nous amène à regarder un peu la confusion des genres, puisque Bolloré est à la fois acteur économique en Afrique, propriétaire de médias comme Canal+, il est aussi propriétaire de la communication qu'il a reprise en main avec l'accompagnement que l'on sait, avec toute l'agitation qu'il y a en interne, toutes les tentatives de censure, etc. Et il y a aussi ce levier-là qui est la communication politique, qui fait de la confusion. On parle principalement de la Guinée-Conakry où Bolloré a visiblement accompagné la communication du candidat Alpha Condé qui, une fois installé au pouvoir, il y a pour certains renvoyé l'ascenseur en dépossédant Nekotran qui avait une concession de 25 ans pour la réattribuer à Bolloré. Donc il y a cette confusion déjà justement qui amène souvent à avoir des difficultés. Il y a aussi ce qui a été bien rapporté dans le sujet, l'affaire de la boucle ferroviaire où là aussi il y a des actions qui sont tentées en justice, notamment au niveau du Bénin où Samuel Dossou, un des concurrents de Bolloré, estime que les choses ne se sont pas passées de façon transparente. Vous savez que Bolloré et à la fois dans le port, dans le rail et dans le transport routier en Afrique. Donc ça fait des situations de monopole où
dans des
secteurs stratégiques qui amènent à avoir naturellement des relations avec le pouvoir politique. Et souvent, pour obtenir certains marchés, il y a des transactions, il y a des concessions qui sont faites et qui peuvent intéresser la justice. Je pense que c'est tout à fait normal qu'on cherche à vérifier s'il n'y a pas eu d'irrégularité dans l'obtention d'un marché. Ouais. Il faut que le même travail soit fait en Afrique aussi, par la justice africaine. Il faut qu'elle ait l'indépendance nécessaire. Il faut que la société civile africaine aussi se batte pour que les marchés publics soient attribués de façon transparente dans les pays africains.
Sept jours en Afrique.
Vous écoutez RFI et vous avez raison. Partons donc pour l'Afrique maintenant, Sedi Kaba, et parlons de deux scrutins présidentiels au Tchad d'abord. Reportage dimanche, le jour du vote, de notre envoyé spécial Binetta Diagne.
Lucienne s'est levée tôt pour voter. Le bureau de vote est installé en plein air, au milieu du quartier, mais les listes d'électeurs ne sont pas affichées.
Je constate qu'il y a vraiment du désordre parce que je me suis fait recenser dans ce carré. Mais il se trouve que ça se traite par alphabet. Alors, ils nous malmènent ça et là, et vous voyez un peu le désordre qui est semé un peu partout. Donc vraiment, nous sommes un peu déçus de ce côté, mais bon, on a espoir.
Malgré quelques dysfonctionnements, les électeurs gardent leur mal en patience. On leur présente des bulletins uniques. Sur ces grandes fiches, chaque candidat est représenté. Il faut simplement faire une croix à côté de son choix.
Nos attentes, c'est qu'il y ait la transparence. Que celui qui est voté, il est voté de manière sincère, digne de la République, c'est ce que nous voulons.
Il est 18h30, c'est l'heure du dépouillement.
Deux personnes vont s'occuper des bulletins.
Le processus se déroule sous l'œil des assesseurs, des délégués de parti et de deux policiers éclairés à la lampe torche.
Qui va lire le nom du candidat voté, c'est-à-dire là où il y a un signe devant son nom, devant son effigie. Vous voyez ? Et donc, la première personne prend le bulletin, déroule, remet à la deuxième personne, qui va lire à haute voix la personne votée. Voilà.
L'urne est ensuite acheminée à la CENI qui devrait annoncer les résultats provisoires d'ici deux semaines.
Nous y reviendrons bien sûr à suivre dans nos journaux. Autre scrutin avec résultat, cette fois c'est dit qu'à Djibouti, une élection validée en outre par l'Union africaine, à Addis Abeba, Karim Lebourg, lundi.
Avec près de 87% des voix, la victoire d'Ismaël Omar Guelleh à Djibouti est écrasante. Elle n'en reste pas moins crédible, dit l'Union africaine. Les assesseurs, vus portant des t-shirts à l'effigie du président dans les bureaux de vote, les urnes cadenassées mais pas scellées avant le dépouillement, ont fait tiquer les observateurs, mais cela ne suffit pas, dit l'UA, à remettre en cause la sincérité du scrutin. La mission présidée par l'ancien Premier ministre du Mali, Soumana Sako, pointe toutefois une irrégularité plus gênante, l'absence des procès-verbaux qui doivent rendre compte du dépouillement bureau par bureau. Une absence dénoncée dès le lendemain de l'élection par le principal candidat d'opposition, Omar Elmi Kéré, qui s'inquiétait aussi des limites de la mission d'observation. Sans accès aux détails du dépouillement, les observateurs peuvent seulement constater, dit-il, que le scrutin à Djibouti a été calme. Mais le calme, ajoute-t-il, ce n'est pas la transparence.
Pour nous écrire par courriel, semaine.actu@rfi.fr.
Notre adresse électronique, donc, vos messages nous intéressent plus que jamais, vous le savez, écrivez-nous, soit avec cette adresse mail, soit à la page Une Semaine d'Actu de Facebook, par exemple. Un bonjour aujourd'hui à Abdoul et à Kobo Maurice à Ouagadougou, bonjour à Fabrice à Brazzaville, bonjour à Hassan et à Baba Ousmane à Dakar.
RFI.
Suite d'une semaine d'actualité en Afrique avec notre ami Sédic Abba du site d'information Monde Afrique. Alors, c'est une séquence élection que nous venons d'entendre. Le Tchad.
Ça nous amène à réfléchir profondément puisque l'élément que nous avons eu nous parle de désordre dans l'organisation du scrutin, des bulletins qui ne sont pas arrivés, des listes qui ne sont pas faites. Et moi, je suis toujours interpellé quand j'entends ce type de difficultés. Parce que entre deux élections, il y a quand même 5 ans. Ça veut dire que on s'y est pas intéressé. On a attendu la fin, les 6 derniers mois ou les 7 derniers mois pour vouloir mettre le paquet. Et on se retrouve avec cela. Si jamais on prenait le temps dès la fin de l'élection en cours, on commence à préparer la suivante, on ne se serait pas retrouvé dans une situation comme celle-là avec des cafouillages. Et ça, c'est pas au Tchad seulement. Mais je pense qu'il y a lieu de tirer des enseignements et de repenser la façon dont les élections sont organisées en Afrique. Parce que ce type de dysfonctionnement entache la sincérité du scrutin. Je ne veux pas faire comme ces observateurs qui viennent 2 jours avant et qui décrètent que les élections se sont bien passées en disant, pour faire bonne figure, en disant oui, mais il y a eu des dysfonctionnements qui ne sont pas de nature à modifier la sincérité du scrutin. Je ne suis pas, moi, dans cette dynamique avec ces observateurs. Je pense qu'il faut organiser des élections de façon transparente, de façon régulière. Et si on s'y prend à temps, on peut y arriver. Sinon, il n'y aurait pas d'élection crédible et ça crée des situations de crise post-électorale comme on peut en voir au Tchad ou ailleurs.
Alors il y a Djibouti avec un score record pour le sortant, pour le nouvel élu.
Oui, Djibouti, et ce qui m'interpelle, c'est que l'épidémie de Koukaoué qui est partie d'Afrique de l'Ouest avec la Guinée, ce Koukaoué, c'est-à-dire la victoire au premier tour, qui a gagné la Côte d'Ivoire, puis le Burkina Faso, s'est déplacé en Afrique centrale avec la victoire de Sassou Nguesso au premier tour. Là, je vois qu'elle a contaminé aussi l'Afrique orientale. Il faut prendre garde à ce que cette épidémie de Koukaoué ne se répande pas sur le continent parce que les victoires au premier coup, de mon point de vue en tout cas, remettent en cause la démocratie ou l'ancrage de la culture démocratique en Afrique. Il faut aller au second tour. Mais là, à Djibouti, il y a non seulement cette victoire au premier tour, mais il y a aussi le problème de la longévité au pouvoir. Le président Guelleh est au pouvoir depuis 1999. Avant d'être au président de la République, il était un des acteurs majeurs du pays en tant que patron des services de renseignement. Donc, ça pose quand même le problème de la longévité du pouvoir. Et ça m'amène à reprendre cette expression de Obama qui dit que lorsque un président considère qu'il n'y a que lui seul qui peut diriger le pays et que personne d'autre ne peut le faire à part lui, il doit considérer lui-même qu'il a échoué à bâtir une nation.
Alors parlons un instant de votre pays de prédilection, un pays qui vous est cher, Sédhi Kaba, le Niger, avec la formation d'un nouveau gouvernement, le gouvernement de Brigitte Rafini, 38 membres, mais aucun membre de l'opposition.
Oui, lorsque je parle du Niger, je prends 2, 3, voire 4 précautions, parce que j'aime à ce que les gens me perçoivent, non pas comme un opposant au régime, ni comme un partisan au régime.
Vous êtes un journaliste.
Comme un journaliste qui peut avoir un rapport d'indépendance avec le Niger. Et d'ailleurs, moi, je suis un peu fier quand je parle du Niger, puisque souvent, l'opposition me critique en disant que je fais le jeu du pouvoir, et le pouvoir me critique en disant que je roule pour l'opposition.
C'est bon signe.
C'est bon signe. Moi, en tout cas, ça me conforte dans l'indépendance que j'ai vis-à-vis du Niger, vis-à-vis de... Enfin, je ne suis pas un opposant au régime actuel. Je compte d'ailleurs des très bons amis dans le système, et je continue à le renouveler mon amitié, mais ça ne m'amène pas à donner un blanc-seing au pouvoir. S'il y a des choses qui sont critiquables, je les critique. Les élections se sont passées dans des conditions controversées, puisque les gens n'étaient pas d'accord sur les conditions de l'organisation.
Il faut rappeler le score, hein, réélection de M. Issoufou avec 92,51% des voix.
Tout à fait, le président Issoufou a été élu avec ce soir le 99% de voix. L'opposition qui a contesté les conditions de sa réélection n'a pas accepté d'entrer dans un gouvernement d'union nationale, puisque pour elle, entrer dans le gouvernement d'union nationale, c'est convalider le scrutin qu'elle avait refusé. Donc, du coup, le gouvernement a été essentiellement formé par le principal parti, le parti du président Issoufou, le PNDS, et ses alliés. Et du fait, je crois que de la volonté de récompenser chacun des partis qui ont soutenu le président Issoufou, on se retrouve avec un gouvernement de 40 ministres, puisqu'il y a eu 2 ministres qui ont été ajoutés, contre 21 au Bénin et 23 en Centrafrique qui viennent de sortir des élections. Donc il y a une difficulté du point de vue de la taille du gouvernement, puisque comme vous savez, en Afrique, la taille du gouvernement a des implications financières, a des implications logistiques, puisqu'il faut donner des véhicules de fonction, il faut donner des maisons de fonction, et quand les ministres voyagent, sauf pour la Centrafrique, où je crois le président a décidé que les ministres vont voyager en éco, souvent dans certains pays, les ministres voyagent en première classe, ça fait des coûts, donc c'est pour cette raison que au Niger même, un moment, la transition avait envisagé que nous ayons un gouvernement de 25 membres seulement. Avec moins de personnes, il y a une meilleure coordination et il y a une meilleure efficacité de l'action gouvernementale.
Notre voyage dans l'actualité continue au Nigeria. Cette fois, vous en parliez au début de l'émission, Sédhi Kaba. Jeudi marquait donc le 2e anniversaire, très triste anniversaire, du rapt des 276 lycéennes de Chibok par Boko Haram dans le nord-est du Nigeria. Nicolas Champeau.
Pour Boko Haram, les mineurs sont des proies plus faciles à embrigader. Autre avantage, les communautés sont moins méfiantes à l'égard des enfants. Manuel Fontaine l'a constaté sur le site d'un attentat suicide à Bagassola au Tchad fin 2015. Il est le directeur régional de l'UNICEF pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale.
Une jeune fille est apparemment arrivée en demandant de l'eau, ce qui se fait. Quand une jeune fille arrive et demande un peu d'eau, évidemment, on va lui ouvrir la porte, on va la laisser rentrer autour du foyer, autour du feu. Et donc, une fois qu'elle est rentrée, qu'elle s'est installée, elle s'est fait exposer au milieu de tout le monde, et ça a tué pratiquement tout le monde dans la famille, je crois, à part un bébé, je crois, et les autres personnes qui s'en sont sorties.
Ces enfants, l'UNICEF insiste, sont des victimes qui agissent le plus souvent sous la contrainte.
Ce sont des enfants qui, dans certains cas, déclenchent leur charge. Dans d'autres cas, la charge est déclenchée à distance par quelqu'un d'autre. Mais dans tous les cas, ce sont des enfants qui sont victimes, bien évidemment, de la situation dans laquelle ils sont mis, qui ont été convaincus. Dans certains cas, ont été enlevés. Dans d'autres cas, ont simplement été embrigadés et envoyés à une mort qu'ils ne comprennent pas et dans une des circonstances qu'ils n'arrivent pas à maîtriser, bien évidemment.
À noter, selon l'UNICEF, la région de l'extrême nord du Cameroun a enregistré 21 attaques suicides menées par des mineurs entre janvier 2014 et février 2016, soit plus qu'au Nigeria pour la même période.
À suivre aussi dans nos journaux, naturellement. Continuons notre voyage au Congo, au Brazzaville, car la tension ne semble pas retomber dans le Poul, ce département du sud de Brazzaville, où, selon les autorités, l'armée mène des opérations armées contre les partisans du pasteur Ntoumi. Près de 2 semaines après le début de ces offensives, le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme s'inquiète. Écoutez ce que disait mercredi la porte-parole de l'organisation, Cécile Pouilly, interrogée par Abla Junaïki.
Les rapports que nous avons reçus sont alarmants et font état de possibles violations des droits de l'homme en République du Congo, en particulier dans le cadre des opérations de sécurité qui sont menées contre des chefs de l'opposition et leurs partisans. Nous avons reçu des informations faisant état d'arrestations massives et même de cas de torture en détention, ainsi que des informations sur des meurtres et un déplacement massif de population dans le département où se déploient ces force de sécurité qui est appelée le département du Poul. Bien entendu, aujourd'hui, nous sommes exprimés publiquement pour rappeler au gouvernement que ces opérations menées par les forces de sécurité doivent être faites dans le respect des obligations internationales de la République du Congo en matière de droits de l'homme. Donc, je pense que la clé, c'est vraiment qu'il y ait un accès très rapide à cette zone pour qu'on mette en lumière ce qui se passe, qu'on comprenne l'ampleur des possibles violations des droits de l'homme qui sont en train de se dérouler et que nous puissions alerter, bien sûr, et demander au gouvernement d'agir pour s'assurer que les forces de sécurité respectent les droits de l'homme sur place.
Il faut aussi souligner dans l'actualité africaine cette semaine la plus importante marche jamais organisée depuis près de 10 ans contre Robert Mugabe au Zimbabwe et une sécheresse en Afrique australe. Le président du Malawi a déclaré mercredi l'état de catastrophe naturelle dans son pays. Nous continuons et nous allons conclure, ça va vite, notre émission cette semaine avec Sédik Abba. Vous voulez dire donc un mot sur... le Nigeria, vous avez commencé l'émission avec ce drame humain, avant d'être un drame politique.
Absolument, ce drame humain, des filles qui n'ont pas été retrouvées, qui ont été dispersées et qui sont victimes même de double peine. Parce que ce qu'on ne sait pas assez, c'est que souvent les filles qui ont réussi par leur propre génie à se libérer de ces oppresseurs, à se libérer de ces ravisseurs, sont rejetées par leur propre famille, par leur propre entourage, parce qu'on considère qu'elles ont été souillées par du fait de l'esclavage sexuel, du fait de ce qu'elles ont subi. Leur famille les rejette. Aujourd'hui, il y a des ONG, heureusement, qui les accompagnent, qui commencent à les aider. Mais je pense que c'est une double peine pour ces jeunes filles. Et il y a aussi toute cette dimension, le reportage le dit si bien, le fait que d'utiliser des enfants comme kamikaze, compte tenu de l'environnement culturel, les enfants sont considérés comme tout à fait innocents. Personne ne peut soupçonner qu'un enfant auquel on ouvre la porte pour lui donner de l'eau puisse se transformer en kamikaze. Donc, il y a cette situation qui est assez difficile pour les populations, parce que aujourd'hui, Boko Haram a totalement perdu du terrain. Il ne contrôle quasiment plus aucune partie du territoire, ce qu'il faisait avant l'arrivée de Buhari. Mais il a changé de méthode, le modus operandi, le mode opératoire a changé. On utilise des enfants qu'on envoie dans des familles où les kamikazes se cachent dans la population. Et ça, c'est un travail du renseignement qui est un travail beaucoup plus difficile, qui prendra du temps. Et malheureusement, des vies humaines vont être continuées à perdre. Même si moi, je garde espoir, je considère qu'il y a un progrès dans la lutte contre Boko Haram du fait de l'arrivée de Buhari et du fait aussi de la prise de conscience de la mutualisation, parce que le gouvernement de Buhari a réussi à construire un rapport de confiance avec les pays de la sous-région, notamment le Cameroun, avec lesquels il y avait un contentieux historique lié à l'île de Bakassi. Les choses se sont améliorées et, à mon avis, de nouveaux succès pourraient être engrangés dans la lutte contre Boko Haram. Ça nous inviterait d'avoir à célébrer des tristes anniversaires comme celui de Philippe Chubon.
Le Congo-Brazzaville, Sédik Abba, des lendemains d'élections difficiles avec des combats au sud de Brazzaville et l'inquiétude, on l'a entendu, de l'ONU en matière de droits de l'homme. Vous parliez de longévité des présidents africains. Là, c'est un cas d'école.
Ah oui, non, mais absolument. Le président Sassou, à lui seul, cumule plus de 31 ans au pouvoir, puisqu'il y a eu Sassou 1 et Sassou 2. Et on ouvre le chapitre de Sassou 3, qui pourrait faire 2 ou 3 autres mandats. Donc, il y a une longévité qui est au pouvoir, qui est contre-productive, qui n'est pas la garantie d'une efficacité, notamment pour un pays comme le Congo, qui est 3e producteur africain du pétrole, avec une population qui n'est pas très élevée, peut-être 3-4 millions de personnes. Donc, un pays qui aurait pu...
Dont la moitié vit sous le seuil de pauvreté.
Absolument. Un pays qui aurait pu être le Koweït ou la Suisse de l'Afrique, qui se retrouve dans cette situation, et avec des problèmes politiques dont les conditions de la tenue du référendum, les conditions de l'organisation de la présidentielle. Le pays est aujourd'hui quasiment installé dans une crise post-électorale, avec une dimension humanitaire qui a été rappelée par Monseigneur Portela, l'évêque de Kinkala, dans la région du Poul, sur les antennes de RFI, et qui dit que la situation humanitaire est totalement dégradée. Le pouvoir parle d'une opération de police. On n'a pas besoin d'hélicoptères qui tirent depuis les airs pour faire une opération de police. Donc, il y a urgence aujourd'hui, là aussi, à apporter assistance aux populations humanitaires et aussi à retrouver les voies d'un dialogue politique pour trouver des solutions aux problèmes politiques. L'usage de la force n'est pas la garantie et le Congo, ayant déjà connu une guerre civile il n'y a pas si longtemps, le reste du monde doit tout mettre en œuvre pour éviter que le Congolais ait encore à verser leur sang.
Alors vous nous préparez un nouveau livre, Sadiq ?
Ah, les livres, c'est comme l'appétit vient toujours en mangeant. Moi, je suis sur 3 chantiers et si j'avais suffisamment de ressources, j'allais me consacrer uniquement à cette écriture. Il m'a été demandé de faire une suite à mon livre sur les 10 affaires secrètes. Il faut que je sorte d'autres affaires secrètes. Il y a aussi un épisode important de l'histoire politique du Niger. C'est ce qui s'est passé entre le président Séni Kouché et le colonel Boulama Manga à l'époque, qui n'a pas été élucidé et sur lequel j'ai des éléments. Et puis, il y a aussi un autre épisode sur lequel je travaille de l'histoire politique du Niger. C'est comment Diori a pu contenir la rébellion du Sawaba, comment il a pu venir à bout de ça. Mais tout ça, ce sont des choses qui sont dans les pipelines. Et si le temps le permet, j'aurai l'occasion de venir en parler quand le projet sera totalement achevé.
Quand ils seront sortis du pipeline, vous viendrez nous en parler.
Avec grand plaisir. C'est toujours un plaisir de venir à cette émission.
Et nous aussi de vous recevoir. Merci Sadiq Abba. Une semaine d'actualité donc réalisée par Sophie Janin. Je vous retrouve demain pour le magazine Idée et nous serons en compagnie de Christian Valentin que vous connaissez peut-être. C'est dit qu'il a été le directeur de cabinet de l'ancien président fondateur du Sénégal, Léopold Sédar Senghor. Nous parlerons notamment de la culture vue par le chantre de la négritude. À ne pas manquer donc demain dimanche 15h10 temps universel, 17h10 heure de Paris. Bon week-end, bonne semaine, dans un instant un nouveau journal sur RFI bien sûr.